13 de Marseille. C'est la fin de ce point d'information.
Nous retrouvons l'invité d'International, Mohamed El Baradei, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, nous parlions de l'Iran, du rôle de l'Iran dans la prolifération nucléaire et bien sûr de sa place aussi dans la région, dans ce Moyen-Orient compliqué. L'Iran, monsieur El Baradei, ne reconnaît pas l'État d'Israël et le président Ahmadinejad considère l'Holocauste comme un mythe. Quelle est votre réaction?
Well, there has been.
Eh bien, de mon point de vue, il y a beaucoup de déclarations provocatrices. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Je crois qu'il doit y avoir un État au lieu de deux États, c'est ce qu'il a dit. La question, bien sûr, de l'Holocauste est très provocative. En fait, ce n'est pas le dialogue qu'on doit avoir. Mais d'un autre côté, ils ont entendu aussi parler d'axes du mal. Donc il faut s'éloigner de ce langage de confrontation offensif. Et il faut savoir comment vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre option.
Bruno Daru.
Alors, M. El Baradei, pour revenir au dossier nucléaire proprement dit, est-ce que vous comprenez finalement le point de vue des Iraniens qui disent « Mais pourquoi les Occidentaux et notamment les Américains nous empêchent d'accéder à l'arme nucléaire ?» nucléaire, alors que des pays comme l'Inde et le Pakistan possèdent l'arme nucléaire avec l'assentiment des Américains, sans parler par exemple d'Israël, fortement soupçonné de posséder l'arme nucléaire, alors qu'aucun de ces pays n'est signataire du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire. Est-ce que vous comprenez ce sentiment un peu d'injustice exprimé par de très nombreux Iraniens?
Absolument, oui, beaucoup. Bruno, tout le système de non-prolifération est toujours fondé sur ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Il y a 9 pays qui ont l'arme nucléaire et qui disent qu'il faut s'appuyer sur les armes nucléaires, il faut moderniser l'arme nucléaire, mais qui disent aux autres pays, vous ne pouvez pas avoir d'armement nucléaire parce que c'est dangereux pour vous. Et je continue à dire qu'un système qui est basé sur ceux qui ont et ceux qui n'ont pas n'est pas durable, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer avec un visage ouvert et aller vers des pays qui n'ont pas des armes nucléaires et leur dire les armes nucléaires c'est mauvais pour vous. Et ils regardent autour d'eux et ils voient que les autres modernisent leurs armes nucléaires.
C'est quoi la solution? C'est que personne n'ait d'armes nucléaires alors?
Absolument. Je pense que à la fin, les gens se rendent compte. Regardez Henry Kissinger, George Shultz, des gens qui ont été au cœur de la guerre froide, maintenant sont très fortement en faveur du fait qu'il faut aller vers un monde sans armes nucléaires. J'étais à la conférence sur la sécurité atomique. Il y a un mouvement massif en Europe et aux États-Unis en faveur d'un monde sans armes nucléaires, pas par idéalisme Bruno, mais simplement en se rendant compte que si on continue dans cette direction, on aura de plus en plus de pays avec des armes nucléaires parce que la technologie est véritablement disponible. Et plus il y a d'armes nucléaires, plus il y a de risques qu'elles soient utilisées de façon accidentelle ou même de façon intentionnelle. La chose la plus dangereuse ou la pire qui puisse arriver, c'est qu'une de ces armes tombe entre de mauvaises mains, dans des mains de groupes extrémistes ou terroristes, parce que si l'on tout le concept va être mis à plat. Ils vont l'utiliser, cette arme.
Vous redoutez un terrorisme nucléaire? C'est quelque chose qui vous semble possible?
Oui, je suis très très inquiet. Je suis très inquiet. Pour moi, c'est la menace de sécurité numéro un à laquelle nous devons faire face. Tout pays qui comprend que si elle utilise l'arme nucléaire, ce pays sera éliminé de la surface de la Terre. Mais pour un groupe extrémiste, nous avons vu à quel point ils sont sophistiqués dans l'acquisition à part des ressources radioactives, mais ils vont l'avoir s'ils ont un système nucléaire. Et le monde tel que nous le savons ne sera plus jamais le même. Pour moi, c'est la menace numéro un en sécurité. Et c'est pour ça que des gens comme Henry Kissinger et d'autres disent aujourd'hui, il faut éliminer éliminer les armes nucléaires, principalement en raison du terrorisme nucléaire.
Nathalie Nougared.
Monsieur El-Baradei, à cause notamment des prix élevés du pétrole, du gaz, il y a dans le monde une poussée pour le développement du nucléaire civil. Beaucoup de pays veulent se doter de centrales nucléaires pour avoir de l'énergie par ce moyen-là. À quel point est-ce que vous êtes confiant que l'AIEA pourra empêcher le détournement de technologies nucléaires civiles vers des fins militaires, c'est-à-dire la fabrication d'une bombe, en sachant qu'un certain nombre de pays du Moyen-Orient, du Proche et du Moyen-Orient notamment, s'intéressent à la technologie nucléaire?
C'est une excellente question, Nathalie. Plus il y a de pays qui utilisent la connaissance nucléaire, plus ils auront la connaissance. Pour nous, des pays comme la France utilisent le nucléaire comme une source propre d'énergie pour l'électricité, pour le développement, sans mauvaise utilisation. Nous avons besoin de deux choses. On a besoin de l'AIEA qui aura les moyens, les ressources, l'autorité légale pour être certain qu'ils ne l'utilisent pas à mauvais escient. Mais plus important, il faut être certain que pas un pays n'aura le contrôle pour enrichir l'uranium ou avoir du plutonium, que pas un seul pays ne doit avoir la main sur l'uranium et sur le plutonium. Si vous voulez que ce cycle sensible d'énergie devrait être bien contrôlé, que personne n'ait les moyens d'avoir un accès direct à des matériaux sensibles qui peuvent être utilisés en tant qu'armes. C'est la seule façon de résoudre la question. Sans ça, diffuser la technologie, c'est comme la diffusion des armes nucléaires, parce que si on a la technologie, comme on l'a dit, avec l'Iran et ailleurs, on peut avoir en quelques mois l'arme nucléaire.
Notamment, est un pays qui cherche à vendre de la technologie nucléaire, notamment en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Est-ce que ça vous inquiète que cette démarche ne s'accompagne pas apparemment de toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité?
Je crois à l'évidence maintenant, donner à des pays des réacteurs nucléaires, eh bien ça doit être accompagné par des garanties adéquates. Nous devons avoir l'autorité d'inspecter où nous voulons. Nous devons être certains que nous n'avons pas une diffusion des systèmes de diffusion d'enrichissement du plutonium. Mais, par exemple, Bruno en a parlé du désarmement nucléaire. Nous avons encore 20 ans après la fin de la guerre froide, 20 000 têtes nucléaires. Quel message cela envoie-t-il aux 190 pays qui n'ont pas d'armes nucléaires et auxquels on dit « vous n'avez pas d'armes nucléaires » et donc la Russie et les États-Unis devraient donner l'exemple. Ils ont 95% des armes nucléaires.
Ils vont le faire.
Barack Obama a dit qu'il s'engage à avoir un monde libre d'armes nucléaires. Il va prendre des pas concrets dans cette direction. Et finalement, j'ai de l'espoir, un véritable espoir, que nous serons capables d'avoir un monde en sécurité.
Bruno Daru.
Pour revenir à la question de Nathalie, est-ce que vous trouvez que la France, notamment, qui cherche beaucoup à vendre son nucléaire, ne prend pas assez de précautions? Est-ce que vous avez déjà exprimé une telle inquiétude auprès des autorités françaises?
J'étais en dialogue constant avec les autorités françaises, que ce soit avec le président Sarkozy, que ce soit avec Anne Levergeois, la PDG d'Areva. Nous sommes en contact direct. Pour que la technologie nucléaire soit disponible, mais pour minimiser les risques de mauvais usage, ce dialogue va continuer. Jusqu'à présent, du côté français, je crois qu'ils s'assurent que lorsqu'ils fournissent de la technologie, le risque doit être minimisé. Mais France n'est pas le seul pays qui fournit de l'énergie nucléaire. Nous avons des pays qui peuvent faire de la technologie locale. Donc il y a beaucoup plus de mesures qui doivent être prises au niveau international.
Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur le rôle de l'Iran dans le Moyen-Orient. L'Iran qui est, vous l'avez dit, qui veut devenir une puissance régionale, la puissance régionale du Moyen-Orient. L'Iran qui soutient la Syrie, on peut en parler aussi dans quelques instants. L'Iran qui soutient le Hezbollah au Liban. L'Iran qui soutient le Hamas à Gaza. Est-ce que l'Iran, c'est la clé pour comprendre cette région? Est-ce que l'Iran, par l'Iran, passera ou non la paix au Proche-Orient?
Comme je l'ai dit, Xavier, fondamentalement, la confrontation entre l'Iran et les États-Unis, ou entre l'Iran et l'Occident, est une concurrence pour le pouvoir au Moyen-Orient. Il y a deux idéologies qui se confrontent, et l'Iran l'a dit très clairement, à moi et à beaucoup d'autres, ils veulent être reconnus comme une puissance régionale importante. Et c'est vrai, ils sont le pays le plus important de la région. Avec beaucoup, ils ont beaucoup d'influence sur l'Irak, sur l'Afghanistan, sur la Syrie, le Liban, le territoire palestinien. Et oui, c'est véritablement la clé pour la résolution des problèmes. Il faut que l'Iran reconnaisse et que l'on reconnaisse le rôle de l'Iran. Et il faut alors dire aussi quelle est la ligne rouge à ne pas franchir, quelle est la politique acceptable et celle qui est inacceptable. Il faut avoir un dialogue non seulement entre l'Occident et l'Iran, mais aussi avec les voisins. Les voisins sont restés de côté pour l'instant, les pays arabes sont restés de côté. C'est la région et ils doivent être avec l'Iran aussi.
L'Iran n'est pas un pays arabe, vous l'avez dit, et vous le regrettez. Pas que l'Iran ne soit pas un pays arabe, mais que les pays arabes de la région soient relativement faibles et peu présents, en fait, dans la solution du problème.
C'est exact. J'ai toujours dit à tous les pays arabes que toute solution du problème iranien doit être une solution qui implique la construction d'une structure de sécurité régionale dont vous devez faire partie. Mais vous avez raison, l'Iran a beaucoup plus d'influence que la plupart des pays arabes pour l'instant.
C'est un Égyptien qui le dit.
Mais ce sont les faits. Ce sont les faits. L'Iran a beaucoup d'influence actuellement. Et les pays arabes, en particulier les grands pays arabes comme l'Arabie Saoudite, doivent être impliqués, doivent exprimer leur inquiétude. Dire à l'Iran comment vivre ensemble et continuer à vivre ensemble pendant un millénaire. Ils ont déjà vécu un millénaire avec eux. Il faut continuer. Il y a le Moyen-Orient qui est vraiment dans un désordre total. C'est un chaos. J'ai jamais vu le Moyen-Orient dans un état plus chaotique. Il y a des guerres en Irak, il y a des guerres en Afghanistan, il y a des guerres à Gaza. Eh bien, il faut mettre un terme à tout cela. Et le terme n'est pas par l'aspect militaire, mais c'est par un dialogue politique.
Monsieur Baradei, vous avez eu des tensions très fortes dans le passé avec l'administration Bush. L'administration Bush n'est plus là. Vous êtes toujours là, en revanche, et vous êtes, qui plus est, prix Nobel de la paix. Est-ce que vous êtes confiant que le scénario militaire est écarté aujourd'hui, depuis le départ de l'administration Bush? Ce scénario est écarté dans le cas de l'Iran.
I believe so. I mean,
je le pense. Nathalie. Bien sûr, la force peut être utilisée lorsque c'est la seule et la dernière et la meilleure solution, lorsqu'on a épuisé toutes les autres possibilités politiques. Mais je crois que nous n'avons pas fait ça. Pendant 6 ans, on n'a jamais vu un Américain côte à côte avec un Iranien pour discuter de ces problèmes dont on a débattu ici. De plus, je pense que si on va bombarder l'Iran, on ne va pas résoudre le problème. On retarde le programme iranien pendant quelques années. Même si l'Iran ne va pas dans la direction d'une arme nucléaire, mais si ils vont faire tout en leur possible pour pouvoir développer une arme nucléaire avec le soutien de chaque Iranien. Vous savez, il y a une différence entre ne pas aimer un régime et aimer son pays, mais un pays qui est mal aimé ou bousculé, eh bien ce pays sera plus aimé par ses habitants. On ne peut pas bombarder une connaissance. Ils ont la connaissance, mais on la retarde simplement. Ils reviendront d'une façon encore plus dangereuse.
Avant de parler de la Corée, parce qu'il faut aussi parler de la Corée du Nord, je voudrais vous poser une question sur la Syrie, si vous le permettez. Donc la Syrie qui est l'allié de l'Iran, dans ce Moyen-Orient. Les Israéliens ont bombardé en 2007 un site qui avait été présenté à l'époque comme celui d'un futur centre de recherche nucléaire syrien. Est-ce que vous avez l'impression que la Syrie veut devenir, la question est très simple, veut devenir aussi une puissance nucléaire dans la région?
Well, nuclear weapon state, you mean?
Vous voulez dire un état militarisé nucléaire, oui?
Oui, bien sûr, oui.
Well, we haven't seen indications.
Eh bien, nous n'avons pas d'indication dans ce sens. Malheureusement, ce réacteur de recherche a été bombardé avant que l'agence n'ait eu l'occasion d'aller voir et de vérifier les faits. Eh bien, maintenant, c'est un peu difficile pour nous. Et je l'ai dit très clairement. J'y suis allé 6 mois après le bombardement. L'information a été disponible un an avant le bombardement, mais 6 mois après le bombardement, on a eu l'information que avant que l'information ne parvienne aux Israéliens et aux Américains. Je le déplore parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire véritablement une enquête poussée, voir si le réacteur fonctionnait et dans quel sens. Nous faisons notre mieux. Nous demandons à la Syrie d'être aussi transparente possible. Je n'ai pas pour l'instant d'information que cela faisait partie d'un programme général pour développer des armes nucléaires, mais nous allons continuer nos enquêtes.
Et les inspecteurs de l'AIEA pourraient retourner prochainement en Syrie, vous le souhaitez ?
Nous y allons, mais nous voudrions aller y poser un certain nombre de questions. Nous voudrions visiter quelques sites prétendument liés à cette réacteur de recherche. Nous n'avons pas eu de réponse positive de la Syrie et je continue à appeler la Syrie transparente. Si vous voulez absolument dédouaner votre nom, vous devez être aussi transparent que possible.
Bruno Daroud.
Un autre pays qui n'a pas été très transparent, c'est la Corée du Nord. La secrétaire d'État américaine, la nouvelle secrétaire d'État, Hillary Clinton, vient de déclarer que les États-Unis étaient prêts désormais à dialoguer directement avec les dirigeants de Corée du Nord. Ça tombe bien, on vient d'avoir des nouvelles de Kim Jong-il. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous que les Américains veuillent dialoguer directement avec les dirigeants nord-coréens ?
Absolument, Bruno. Je crois que sans... Écoutez, la Corée du Nord n'est pas différente de l'Iran. C'est tout d'abord une question de sécurité. Bien sûr, la géopolitique est différente, mais c'est une question de sentiment qu'ils ne seront pas attaqués. Il faut leur donner une assurance de sécurité. Il faut leur parler. Et quand on ne parle pas aux Nord-Coréens, vous vous souvenez, sous Clinton, il y avait un dialogue avec les Nord-Coréens. Pendant l'époque Bush, ils ont arrêté de leur parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Corée du Nord a développé, à tester des équipements nucléaires. Et lorsqu'on arrête de parler aux Iraniens, parce que vous ne voulez pas qu'ils aient la technologie, qu'est-ce qui se passe ? L'Iran va maîtriser, et elle a maîtrisé la technologie nucléaire. Donc, sans dialogue, je pense que les choses deviennent pire. On ne peut pas continuer à donner des ultimatums à travers les océans, comme Xavier l'a mentionné, les communautés américaines.
Quel est l'état de vos informations aujourd'hui à l'AIEA concernant le degré d'équipement nucléaire de la Corée du Nord?
Nous savons que dans une de leurs sites, un de leurs sites a été démantelé et sous vérification de l'AIEA. Mais nous ne sommes pas partout en Corée du Nord. Vous savez, la Corée du Nord a quitté le TNP, a expulsé les inspecteurs, donc on fait des inspections vraiment locales. Je peux vous dire ce qu'on fait là-bas, mais je ne peux pas vous dire que dans tout le pays, il n'y ait plus de programme. Mais je peux simplement vous dire que je ne peux pas vous dire qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires en Corée du Nord.
Mohamed El-Baradei, qui a la clé du nucléaire en Corée du Nord ? C'est la Corée du Nord elle-même ? C'est la Chine ? C'est les États-Unis ?
Non, très clairement, c'est la Corée du Nord. La clé, il faut rassurer la Corée du Nord. Il faut que la Chine, qui a joué un rôle actif, mais en fait, il faut aussi que les États-Unis leur fournissent des assurances de sécurité. Il faut fournir aussi des incitatifs sur le plan économique, une assistance humanitaire. J'étais en Corée du Nord il y a un an et on m'a dit que 50% de leurs enfants de moins de 2 ans sont mal nourris. Et donc, je mets de côté mon rôle en tant qu'inspecteur et je regarde la partie humanitaire. Et quand je vois des millions de civils en train de mourir en Irak, au Darfour, au Congo, pour moi, ça dit quelque chose, c'est qu'on a un système de sécurité qui doit être complètement réformé. Nous avons besoin d'un nouveau début, tous ensemble.
Nathalie Nougared.
Il existe un marché noir, ou en tout cas il a existé un marché noir du nucléaire dans le monde. Apparemment, la Corée du Nord a aidé la Syrie dans ses travaux, dans ses débuts de travaux nucléaires. On sait que le Pakistan, et notamment le réseau du docteur Khan, le père de la bombe pakistanaise, a aidé l'Iran notamment, et sans doute la Libye aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état de ce marché noir aujourd'hui ? Est-ce qu'il a été endigué, contenu ? Comment combattre ce marché noir nucléaire aujourd'hui ?
This is one of the
Eh bien, un des grands dangers auxquels on doit faire face, parce que c'est aussi lié, Nathalie, au terrorisme nucléaire, nous savons que le réseau du Dr Khan, je crois qu'il y a 30 ou 40 compagnies en Europe et en Asie et en Afrique qui fonctionnent dans ce genre-là. Et nous savons qu'elles fournissent un soutien à l'Iran, à la Libye.
Il faut rappeler que le professeur Khan, c'est ce professeur pakistanais qui est considéré comme le père du nucléaire pakistanais et accusé d'avoir proliféré, d'avoir répandu cette technologie dans plusieurs pays, dont la Corée du Nord et par effet boule de neige à la Syrie.
That's correct. I mean, he's the father of the
Pakistan bomb. C'est le père de la bombe pakistanaise. Très clairement, il a aidé. Mais ce n'est pas un individu, c'est comme je l'ai dit, c'est un réseau. Ils soutiennent l'Iran, la Libye pour avoir la technologie.
Et
on dit qu'ils aident la Corée du Nord, mais ils avaient déjà ça, ils avaient le processus, ils avaient la capacité avant même que Khan les ait aidés dans le programme d'enrichissement. Mais maintenant qu'on a des CD-ROM qui vous disent comment enrichir l'uranium et même comment développer une arme nucléaire, eh bien, on peut se demander combien de pays, combien de gens, combien de terroristes ont cette connaissance. Et c'est ce que j'ai dit, c'est le danger le plus important. Je crois que nous, mais la communauté internationale, réussit à mettre la main sur ce réseau, à l'arrêter, et j'espère que ce réseau va cesser d'exister. Y a-t-il un autre réseau? Est-ce que d'autres réseaux ont appris la leçon? Est-ce qu'ils vont travailler à nouveau? Ce sont des problèmes, il faut être très vigilant là-dessus.
Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Bruno Daroux.
Juste pour poursuivre sur le docteur Khan, il a été libéré, en tout cas c'est ce qu'on nous dit en provenance du Pakistan, il a été libéré il y a quelques jours. Comment réagissez-vous à cette libération? Et est-ce que si vous le pouviez, je ne sais pas si vous le pouvez, vous aimeriez l'entendre?
Mais oui, absolument, nous aimerions beaucoup lui parler. Et ce serait très très important pour nous, à un point donné, de parler avec lui, pour être certain qu'on a mis toutes les pièces du puzzle ensemble, qu'on a parfaitement compris ce réseau et la façon dont il opère.
Khan,
comme vous le savez, Bruno, est un héros national au Pakistan. C'est lui qui a développé leur bombe. Il est perçu comme étant celui qui a mis à niveau les relations avec l'Iran. Donc je ne suis pas certain. Et on a demandé à avoir une interview avec lui. Et j'espère toujours qu'on aura une rencontre avec lui.
Nathalie ?
Vous êtes le directeur d'une agence qui est une agence technique de l'ONU. En principe, vous n'avez que le rôle de donner une expertise technique sur l'avancée de tel ou tel travaux nucléaires dans le monde. Or, vous endossez un rôle extrêmement politique. Vous parlez du Darfour, vous parlez de Gaza. Vous avez créé, en fait, pour vous, une niche très, très politique. Est-ce que c'est quelque chose que l'AIEA doit assumer et poursuivre à l'avenir ? Au moment où vous quittez votre poste à la fin de cette année, excusez-moi.
Je
continue d'être accusé de parler trop et pas dans mon rôle. Mais je n'ai pas de rôle, parce que l'agence doit s'occuper très clairement avec la partie la plus primordiale de la paix et de la sécurité. Je dois exprimer mes vues, mes positions. L'arme nucléaire, c'est la cause fondamentale de l'insécurité et je dois donner des conseils au gouvernement pour pouvoir m'aider, moi, pour pouvoir contrer la prolifération des armements nucléaires. Je ne pense pas que je pense et que je parle en dehors de mon rôle. Je demande au gouvernement de m'aider et finalement, c'est leur décision. Mais moi, je continuerai à parler haut et clair. Je parle comme je l'ai dit, pas simplement en tant que directeur général de l'AIEA, mais comme un citoyen concerné, comme quelqu'un qui aimerait voir notre monde plus sûr et plus humain.
Mohamed El Baradei, vous venez de terminer, vous allez terminer bientôt votre troisième mandat à la tête de l'AIEA. Vous confirmez que vous ne serez pas candidat à un quatrième mandat?
Absolument.
Je crois que ma femme va me tuer si j'y pense.
Il nous reste quelques secondes. On sait aussi que l'AIEA a des problèmes d'argent. Hein. Est-ce que vous lancez un appel à la bonne volonté, de la générosité
Vous avez espoir d'être entendu par ces membres. Vous demandez une augmentation de 11%, je crois, du budget pour 2010.
Oui,
absolument. Nous sommes sous-budgétés et pour être capable de faire notre travail de façon indépendante et efficace, on a besoin de l'argent. Sinon, je ne peux pas tromper la communauté internationale et dire je peux faire mon travail. Non. Si je n'ai pas le le budget, je ne peux pas faire ma façon, mon travail de façon crédible.
Merci beaucoup Mohamed El Baradei, merci aussi aux traducteurs qui ont merveilleusement traduit toutes vos paroles. Merci à Nathalie Nougared, merci Bruno Darroux. Je rappelle que l'émission est sur international.fr. Merci encore et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'International.
Leopoldville à Kinshasa, de Congo en Zaïre, les grandes années de la rumba Cavacha sont synonymes de Luombo Makiadi, alias Franco, le plus grand ambianceur de son temps. Francophonique. Des tout premiers enregistrements en 1953 jusqu'aux années 80, redécouvrez 30 ans de légende. Francophonique, une coédition Cantos RFI, disponible en magasin et dans la boutique sur le site RFI.fr.
Like a glove.